Alexandre Daggio, La nymphe des eaux. La maisonnette au bord d'un fjord est construite en courtes bûches noyées dans le mortier et étagées sur une grande assise de briques. Trois hommes entourent un poêle de faïence. Ils sont couchés, plutôt que assis, dans de vastes fauteuils de chêne. Chacun a près de soi un cruchon de bière et un pot à tabac. Les personnages sont le pasteur Olev Gastrup, l'officier aux gardes Apan Ferzardez et le médecin Olius Genel. Le vent gémit au dehors. On entend parfois des plaintes étouffées, perfras de stridents appels, et une petite lampe fumeuse éclaire la scène. Messieurs, mes amis, commence Lep, vous plairait-il de discuter la grave question qui nous a provoqué notre réunion? Les deux autres font, entre deux bouffées de pipe, un signe d'assentiment. Il s'agit, continue le pasteur, de trouver pour le navire que construit notre allié et parent Captain Congest un nom pour ce navire. Oui, murmura le médecin. Oh, c'est là une recherche des plus embarrassantes. Pourquoi ? Fait l'officier. Pourquoi ? Répond avec vivacité le médecin, parce que chaque mot, chaque nom entraîne un sort fatal. Oh, que l'enfantillage! Mon cher Arpen, il en est ainsi, oui, une loi mystérieuse s'attache à chaque lettre, à chaque nom. Loi de bonheur ou d'infortune, le tout est inéluctable. Un médecin devrait-il parler de la sorte? Et quand ce médecin a de l'expérience, il doit s'exprimer en ce sens. Monsieur, interrompt le pasteur, n'entrons pas dans cette controverse. Cherchons le nom. Pour moi, après mes réflexions, je suis pour celui-ci, la nymphe des eaux. Oh, jamais ! S'écrie Angelis. Et le docteur se lève et marche avec agitation dans la chambre. Puis il reprend. Mais vous ignorez ce qu'est la nymphe des eaux. Cette divinité pernicieuse, inexorable, ne rêvant que mort et destruction, vous êtes-elle inconnue? Ah, vous souriez, Olep. Vous riez, Adam. Ah, vous ne savez pas comme moi. Vous n'avez pas vu comme moi la menaçante déesse se dresser sur les vagues. Paliriez en écoutant ce récit. Vous l'avez vu ? Certes, je l'ai vu. Écoutez-moi. C'était en 1842, à l'époque où sévit dans notre chère Norvège la terrible épidémie des prédicants. Ce mal avait deux symptômes, un physique, consistant en des attaques spasmodiques et en des convulsions affreuses, et l'autre psychique, annoncé par une extase pendant laquelle le malade croyait voir et entendre Dieu, les anges du paradis, et décrivait et répétait avec faconde ce que sa vue et son ouïe recevaient par hallucination. J'étais fort jeune, je me mis à étudier cette crise avec l'esprit sceptique d'un carabin né athée, et je subis la contagion. J'ai eu des visions. Ma raison réagit. Je compris que je me trouvais dans un état de démence causé par la fièvre. Et si je vous parle de cela, c'est pour vous dire que j'ai du sang-froid quand j'analyse une sensation. De plus, j'ai passé ma vie à m'occuper des questions de magnétisme. Oh, je connais le fort et le faible des théories mesmériennes. Je suis réfractaire, plus que nul autre à la suggestion. Je penche vers la philosophie de Piron. Je doute de la réalité de ce que je vois, de ce que j'entends, de l'existence, de ce que je me touche. Il y a des cas, toutefois, où la certitude absolue s'impose. Et j'ai vu, certainement, vu la nymphe des eaux. Un poisson. Non, une femme. Mais à peine laissez-moi continuer mon récit sans m'interrompre. Et le docteur Lunel reprit après avoir bu une lampée de bière. On m'offrit un engagement en qualité de médecin de bord sur un navire qui devait transporter en Amérique une lourde cargaison de fer. J'acceptais volontiers. Après 2 semaines d'heureuse navigation, nous arrivâmes à peu de distance de Terre-Neuve. Là, le vent nous manqua. En 1842, on n'avait que la voile. Et il nous fallut rester en panne pendant plusieurs jours. Le 15 septembre, oh, je ne saurais oublier cette date néfaste, nous eûmes, vers 6 heures du matin, le spectacle admirable d'une aurore boréale. Le ciel était sillonné de fusées et de météores semblables aux étoiles filantes. Un arc-en-ciel d'une largeur inouïe et qui ondulait comme une moire agitée se développait de sa grande ours. C'était des bleus d'une délicatesse extrême, des roses passées, des verts chatoyants et de doux et pâles jaunes. C'était l'irisation fameuse et laiteuse des perles plutôt que de la violente scintillation des diamants. C'était une nébuleuse couvrant de son orbe la moitié du ciel. Je regardais avec ravissement le phénomène. J'éprouvais des sensations auditives. Certes, les bas vibrants donnaient un note grave et les drisses pleuraient comme des chanterelles. Et tout à coup, le timonier, blême, chancelant d'angoisse, s'approcha de moi. « Monsieur, la nymphe des eaux !»« Où donc ?»« Près du Beaupré !» Je courus à l'avant du navire. Debout sur les ondes, à une courte distance, une femme, à peu près nue, de haute taille, se dressait, souriante. Ses bras s'étendaient vers nous. Ses mains faisaient des gestes amicaux. Je vois encore ses yeux verts, ses cheveux glauques, semés de fils d'or. Son sein ruisselant, ses pieds qui roulaient, la mer unie et calme, et l'aurore boréale devint plus lumineuse. Le feu Saint-Elme frissonnait le long des haubans, et le navire entier se mit à résonner, étrange et stupéfiant concert, des orgues saintes sous l'effroyable jeu d'un démon. Le timonier murmurait « Oh, malheur à nous !» Notre pilote, fils de l'armateur, était âgé d'une vingtaine d'années. Il s'accouda sur le bastingage. Les marins l'entouraient. « C'est elle !» disait le pauvre garçon. « Quand je suis parti, nous venions de nous fiancer. Oh, sa petite main brille à l'anneau d'or. Marie, oh, mon premier, mon unique amour, ma vierge et mon amie, ma belle promise, pour te fêter à la place où s'étendaient les mots, Dieu a fait connaître un champ semé de roses, de lys et de primevères bleues. » Et les marins s'écrièrent « Oui, nous voyons les fleurs !» Mais comment a-t-elle quitté les prairies de Norvège, le petit bois de bouleau et le calme fjord et la cabane de sapin? Elle m'appelle, j'irai vers elle en foulant les gazons. À toi, Marie, à toi! Et les marins dirent: oui, allons vers elle. Le pilote et plusieurs matelots sautèrent dans la mer. Ils surnagèrent un instant, un seul instant, puis s'engloutir pour jamais. La nymphe des eaux exultait. J'entendais le rire moqueur de ce démon. Un vieux gabier s'avança. « Tiens, ma fille, Lisbeth, oh, la gamine, au lieu d'aller à l'école, elle flâne en écoutant les oisillons. Enfant, enfant !» « Papa te pardonne, mais ne te sauve pas. Reste, t'ai dit-je. Attends que je t'embrasse, petite méchante. » Et le bonhomme se précipita et disparut. La nymphe des eaux témoignait d'une joie délirante. Un mousse était là. « Mais cette belle femme, c'est ma mère, maman. Ma maman adorée, quand je t'ai quitté, que de larmes. Me voici, me voici. » Et au moment où le mousse enjambait le parapet, je le saisis. Il lutta contre moi en désespéré. Le timonier, plus fort que je n'étais, me prit le bras. Et le petit put se débarrasser de mon étreinte. Il sauta par-dessus le bord. « Docteur, me disait le maître d'équipage, la nymphe veut son compte. Elle ne disparaîtra que s'il y aura assez à son idée, assez de victimes. La mort de quelques-uns sauve le reste des hommes. » Je sentis une envie folle de partager le sort des malheureux. La fascination de la sirène agit sur moi. Je compris qu'il me fallait la pressée dans mes bras, ma tête s'égarait. « Viens, me disait-elle, viens, je te donnerai le mot de la science et la parole de la volupté. On trouve sous les mers des trésors immenses, petites perles rares ou des naufrages, on y voit des spectacles inouïs. Forêt d'anges, d'algues lumineuses, instruments monstrueux animaux. Veux-tu boire la coupe d'amour? L'anadiomène te versera le nectar. Veux-tu manger le fruit de l'arbre du bien et du mal? Ce fruit est pendu à une branche de corail rose. » Je fis un pas. je tombai évanoui. Un roulis affreux se fit reprendre les sens. La tempête se déchaînait. D'énormes vagues se dressaient de tous les côtés. Sur notre tête, des nuages noirs, de moment en moment, s'empourpraient sous le feu des éclairs. Le navire râlait. Le roulement de tonnerre nous assourdissait. L'odeur de soufre nous serrait la gorge. Les mâts se tordaient sous le vent. Les flancs du vaisseau fléchissaient sous les paquets de mer. Allions-nous sombrer ? Oh, nous sommes perdus, m'écriai-je. Oh non, nous sommes sauvés, répondit le capitaine. Elle n'est plus là. Elle qui ? La nave des eaux ? Chut ! Pour l'amour de Dieu, ne la nommez pas, ne l'appelez pas. Elle pourrait revenir. Elle m'a pris 6 hommes, dont le pilote et le mousse, n'est-ce pas assez ? Le docteur Lestrup et l'officier présidence sont pâles. Klaus, comment expliquez-vous cette vision ? Demande ce dernier. Mais facilement, mon cher Opam. Sous des influences magnétiques, ambiantes, l'homme perçoit éphémériquement des sensations extraordinaires, produisant la folie ou tout au moins l'exaltation. Il n'est pas plus difficile d'exposer scientifiquement les causes de l'extase des prédicants que celles de l'apparition de la nave des eaux. Mais alors, nous avons subi sans doute par l'influence de l'aurore barboréale et d'un chargement de fer magnétique, cette terrible fièvre que l'on nomme en langage quelconque nautique la calenture. Nous avons éprouvé l'hallucination de la sirène parce que nous connaissions, nous autres Norvégiens, tous la même légende, la même vieille légende. Dans certaines conditions de milieu, il suffit qu'un homme dise « Voici ce que je vois » pour que d'autres hommes contemplent le même spectacle. Le matelot qui s'écria le premier « La nymphe !» obligea l'équipage, votre serviteur compris, à voir la déesse malfaisante. Toutefois, pour des causes secondaires à individualité, il y eut, dans le cas Sunare, pour chaque victime, un objet un peu diversifié. Le pilote, qui pensait à sa fiancée et ne pouvait voir dans une apparition féminine que sa fiancée. Le gabier devait voir sa fille et le mousse sa mère. Et le docteur ajoute d'un air convaincu, « Le nouveau navire, mes amis, ne s'appellera pas la nymphe des eaux. Non, 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 je ne veux pas. Avec un pareil nom, néfaste, nos marins norvégiens seraient facilement portés à subir une des plus mauvaises hallucinations possibles. Non, non, pas ce nom. Ce que vous voudrez, mais pas celui-là. »